Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
On l'a mené à l'hôpital pour le soigner où il avait mal. Il s'était fait mal dans la rue, mais on l'a soigné autre part. Et il est mort.
Sur les nouveaux chemins, toute cette semaine, à l'occasion de la parution des entretiens d'Adel Van Rett avec Eric Fiat, c'est la pudeur que nous tentons non pas d'attraper mais de dévoiler, à tâtons, par touche. Lundi et hier, c'est la pudeur, vertu tout à la fois fragile et érotique que nous évoquions, et demain, ce sera la pudeur et ses travers politiques. Mais pour l'heure, découvrons la pudeur à l'hôpital ou quand la maladie nous met à nu. Et toute l'équipe des Nouveaux Chemins se dévoile elle aussi. Marianne Chassor, Antoine Ravon, Colomba Grossi, Lucie Tardy, David Pargamin, sans oublier bien sûr Adel Van Rett, avec à la lecture des textes Marianne Bassler, à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Théo Gomard. L'intrus s'introduit de force, par surprise ou par ruse, en tout cas sans droit ni sans avoir été d'abord admis. Il faut qu'il y ait de l'intrus dans l'étranger, sans quoi il perd son étrangeté. Une fois qu'il est là, s'il reste étranger, aussi longtemps qu'il le reste, au lieu de simplement se naturaliser, sa venue ne cesse pas. Il continue à venir, et elle ne cesse pas d'être à quelque égard une intrusion, c'est-à-dire d'être sans droit et sans familiarité. Sans accoutumance et au contraire d'être un dérangement, un trouble dans l'intimité. En 1991, le philosophe Jean-Luc Nancy subissait une grève du cœur. Quelques années plus tard, 9 ans, précisément en 2000, il écrivait ces pages bouleversantes sur l'intrus. L'intrus qui a été ce nouveau cœur et qui ne cessait de lui rappeler son altérité au sein même de son identité. Mais quand on tombe malade, c'est comme si l'intrus se multipliait. C'est le médecin qui veut soigner, c'est aussi sa famille qui veut savoir, et c'est aussi d'abord la maladie qui nous a mis à nu. Mais si l'intrus, ce qui exhibe notre intimité ou la cache par excès, l'impudique ou le trop pudique, c'était d'abord nous, dès lors que l'on ne s'appartient plus, dès lors que le virus, la greffe, la pathologie ou l'affection nous ont traversés. De l'impudeur de la maladie à la pudeur du patient et du soin, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour en parler Claire Marin, philosophe et écrivain, professeur de philosophie en classe préparatoire, auteur de « Hors de moi » et de « Maladie, catastrophe intime ». Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour, merci.
Et bien sûr, comme chaque jour de cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Eric Fiat, professeur de philosophie morale et d'éthique médicale à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. Bonjour et merci d'être là.
Bonjour, très content de vous retrouver.
Le processus de détérioration amorcé dans mon sang par le sida se poursuit de jour en jour. Bien avant la certitude de ma maladie, sanctionnée par les analyses, j'ai senti mon sang tout à coup découvert, mis à nu, comme si un vêtement l'avait toujours protégé, sans que j'en aie conscience. Il me fallait vivre désormais avec ce sang dénudé et exposé, à toute heure, dans les transports publics, dans la rue quand je marche, toujours guetté par une flèche qui me vise à chaque instant. Est-ce que ça se voit dans les yeux ? J'ai senti venir la mort dans le miroir bien avant qu'elle y ait vraiment pris position. Il n'y avait pas de jour où je ne découvrais une nouvelle ligne inquiétante, une nouvelle absence de chair sur la charpente. Cela avait commencé par une ligne transversale sur les joues et maintenant l'os semblait sortir hors de la peau, à fleur de peau, comme de petites îles plates sur la mer. Cette confrontation tous les matins avec ma nudité dans la glace était une expérience fondamentale. Tantôt la visite à l'hôpital m'abat, tantôt elle me ragaillardit à cause de l'état des autres, qu'ils soient désespérants ou encourageants selon l'humeur. Je vois de jeunes garçons se dégrader très vite, en l'espace d'un mois ou deux. Le mourant doit sourire, et même, s'il y arrive, rire.
On vient d'entendre un extrait du documentaire d'Hervé Guibert, La pudeur et l'impudeur. C'est un film dans lequel il raconte la détérioration de son sang, donc liée au sida. Et une des choses qu'il prononce, qu'on a entendu dans cet extrait, c'est qu'il a senti son corps dénudé, exposé. On a l'impression que l'expérience de la maladie est peut-être l'expérience même de l'impudeur. Claire Marin ?
Oui, ce qu'il dit bien, c'est à quel point il est comme habité par un autre visage ou une autre personne que lui-même, un étranger qui est surgi de lui et qui est l'image de lui mourant. Il dit à un moment, est-ce que ça se voit dans mes yeux ? Et il dit aussi que dans le miroir, il ne voit plus finalement que le visage de la maladie. Et ce genre de constat sur son apparence, qui parfois étonne beaucoup ceux qui regardent le malade, qui disent « mais non, on voit rien, tu as bonne mine », etc. C'est un constat qu'on retrouve dans beaucoup de récits sur la maladie, où le malade ne se reconnaît plus, a l'impression d'être dépossédé de son visage familier et habité par la maladie qui s'incarne en lui.
C'est ça l'expérience de l'impudeur, peut-être, de la maladie, c'est effectivement de ne plus se retrouver, c'est-à-dire de ne même plus faire l'expérience de ce corps dont l'esprit pouvait rougir, mais que l'on ne reconnaît plus. Finalement, c'est plus que de l'impudeur, c'est vraiment de l'étrangeté. Sur ce point, Eric Fiat.
Oui, nous n'avons pas demandé à être et nous n'avons pas demandé à être comme nous sommes. Et si nous le pouvions, nous demanderions tous des modifications. Mais il se trouve qu'au fur et à mesure des années, nous finissons par nous habituer à ce corps qui nous a été donné. Alors bien sûr, il nous arrive parfois de le regretter beaucoup. Hein. Je me rêvais Christian et me voilà Cyrano. Je me rêvais jeune premier et me voilà Barbon. Mais enfin, au fur et à mesure des années, la rencontre coutumière avec le miroir fait que je vais m'accoutumer, m'approprier ce corps. Et voilà-t-il pas, comme disait ma grand-mère, que la maladie me rappelle à cette étrangeté. C'est une épreuve, en effet, qui parfois est plus dramatique pour le malade que pour les autres. Alors, dans le cas du sida, bon, heureusement, je crois que les choses vont mieux aujourd'hui grâce à la trithérapie, mais m'occupant un peu d'éthique médicale, je me souviens d'avoir dû jouer le philosophe de service, comme dit mon ami Raphaël Antoven, un jour, avec des malades du sida qui, heureusement, s'en étaient sortis. Et alors, il racontait ce qu'avaient été les premières années de cette maladie, lorsque vraiment la maladie stigmatisait. Puisque vous aviez une maladie de peau qu'on appelle le Kaposi, qui transformait ces visages et ces corps, généralement d'hommes jeunes, très soucieux de leur beauté, véritablement en plaie vivante. C'était vraiment quelque chose de très douloureux, à tel point que je me souviens d'avoir entendu dans ce film raconter l'histoire d'un homme qui ne voulait plus qu'on le vît. Et il n'avait de repos, de secours qu'à l'hôpital, puisqu'il au moins il y avait que les soignants qu'il voyait, et eux étaient habitués à ce genre de choses. Et un jour, l'aide-soignante lui dit « ça va aller, mais je ne peux pas me montrer. Mais si, ça va aller mieux. À demain. » Le lendemain, il est arrivé à l'hôpital, et il n'était pas là, il s'était jeté par la fenêtre. Bon, je ne vais pas dramatiser notre entretien, mais ce texte de Guibert est très très fort.
Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que je crois que ça montre aussi que le curseur de la pudeur se déplace en fonction des lieux, et que des stigmates de la maladie qu'on n'assume pas en public, en société, n'auront pas effectivement le même sens dans l'enceinte de l'hôpital. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'hôpital comme le lieu où les corps sont exhibés, où le malade est exposé peut-être de manière outrancière aux regards étrangers des médecins, des soignants. Mais il faut aussi voir que pour le malade, surtout le malade au long cours, dans la maladie chronique, dans les longues pathologies, peut vivre aussi l'hôpital comme un asile, où précisément il pourra, sans fausse pudeur, vivre sans cacher son crâne, sans cheveux, montrer effectivement ce que la maladie a dégradé de son corps sans en avoir honte. Donc il y a aussi cet aspect-là de l'hôpital comme un lieu où on est débarrassé d'une honte qui est liée au regard curieux et impudique des gens entre guillemets normaux et sains.
En fait, dans l'hôpital, on peut être libre d'être soi-même et on n'est plus embarrassé même par la pudeur, en fait. C'est-à-dire par le fait de devoir se cacher parce qu'on a honte d'apparaître détérioré, malade, en fait, de montrer une image de soi que l'on n'assume pas.
Je pense que le respect de la pudeur, c'est une affaire de kairos, comme disent les philosophes. Vous savez que dans le patois des philosophes, il nous arrive de dire que pour bien agir, il faut agir à propos. C'est une belle formule de Montaigne. Le même mot, la même partie du corps, exhibée ici, n'apparaîtront pas comme impudiques et ne feront pas souffrir celui qui va dire ce mot ou montrer cette partie du corps. Mais là, dans un tout autre contexte, eh bien, il va être insupportable d'entendre ce mot ou de dire ce mot, insupportable de dévoiler cette partie du corps ou de voir qu'elle est vue par les autres. Donc, le respect de la pudeur, c'est une kairologie, une science du moment opportun et aussi une science du lieu opportun. Alors simplement, l'hôpital est parfois un asile. Parfois un lieu où enfin il n'est pas si grave d'être dénudé par la chimiothérapie, il n'est pas si grave d'être incontinent et d'être lavé par un autre que soi. Mais parfois ça n'est pas un asile. Et je pense que il faut rendre hommage aux soignants qui sont au contact quotidien de ces misères-là. Et malheureusement, oui, certains en effet ont une telle science du kairos, du moment opportun, qu'ils peuvent soigner, laver, regarder, sans blesser la pudeur. D'autres pas. L'hôpital est parfois un asile. Parfois, il est un enfer.
My name is Frederick Trees, and I'm a surgeon here at the London Hospital. And
j'aurais aimé vous examiner afin de. Ça ne vous ennuie pas? Enlevez votre cagoule, je vous prie. N'ayez pas peur. Je veux juste vous regarder. Ôtez votre cagoule. N'ayez pas peur. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ouvrez les rideaux, je vous prie. Il est anglais. Il vient d'avoir 21 ans. Et il s'appelle John Merrick. Chers confrères, j'ai dans ma profession été souvent confronté à de multiples difformités de la face, accidentelles ou congénitales, mais je n'ai encore jamais vu une malformation et une dégradation aussi totale chez un être humain. J'aimerais attirer votre attention sur le caractère insidieux du mal qui affecte notre patient, vous voyez bien. Hypertrophie marquée du membre supérieur droit et de son ossature, importante distorsion de la tête, disproportion du corps, recouvert de papillomes géants, on a surnommé le sujet... L'homme éléphant. Merci.
On reconnaît un malade au besoin qu'il éprouve toujours à se faire pardonner et à son incapacité à y parvenir totalement. Face au monde extérieur, cela signifie s'excuser de ne plus être utile à la collectivité à laquelle il appartient, de manquer à son travail ou bien à sa famille, de présenter aux autres une image indigne et embarrassante de lui-même. Au sein même de l'hôpital, cela veut dire demander qu'on lui pardonne de ne pas être conforme à l'image du patient idéal que suppose le traitement, de souffrir malgré tout, de ne pas répondre aussi bien qu'il faudrait aux drogues qu'on lui administre, de ne pas mettre assez de bonne humeur et de bonne volonté dans sa participation à la vie collective de l'institution. Le patient se sent toujours en faute, et de fait il l'est, puisqu'il manifeste malgré lui la menace qui pèse sur chaque individu et qui introduit dans le système social, totalité supposée suffisante, l'agaçant grain de sable qui enraye toute la mécanique du monde. On ne mesure pas assez l'ostracisme dont souffrent les malades. L'hôpital ancien, parce qu'il ne disposait pas des moyens de guérir, se contentait de fonctionner sur le modèle de la léproserie. On disait aussi un lazaret. Le mot vient de l'italien lazzaro, qui signifie mendiant. Symboliquement, l'hôpital moderne est un lazaret semblable où l'on place à l'écart de la cité tous ceux qui souffrent, les astreignant à une quarantaine qui vise à préserver les vivants de tout risque de contagion.
Claire Marin, Eric Fiat, voilà deux manières de poser le regard sur la maladie, deux points de vue. D'une part, le film Elephant Man de David Lynch, dans lequel on expose à la vue de tous, on objective le corps monstrueux de John Merrick. Et puis, de l'autre, un extrait du texte de Philippe Forest, interprété par Marianne Bassler, Tous les enfants sauf un, où là, c'est plutôt, on est plutôt du côté du regard du malade sur lui-même, qui se sent obligé de bien paraître, d'être un bon malade. Et dans les deux cas, on a deux formes d'impudeur ou de pudeur, celle du malade qui doit bien paraître et puis celle de la science qui finalement est impudique parce qu'elle est intrusive et qu'elle objective ce corps censé être intime. Claire Marin ?
Il y a effectivement ces deux dimensions, celle de la violence du regard médical, objectivant, réifiant, qui fait du corps du patient pour la deuxième fois, dans le cas d'Elephant Man, un objet de foire, finalement. Hein. Il est exhibé comme il l'était déjà dans un cirque précédemment, si je me souviens bien. Il y a donc ce sentiment possible. Et là aussi, on a des expériences banales de voir un patient exposé à de nombreux étudiants en médecine. Ni les uns ni les autres ne sont nécessairement préparés à cette situation. Il faut aussi voir ce que c'est comme violence, parfois, pour les étudiants en médecine, d'être confrontés à certaines réalités corporelles de la maladie. On oublie aussi cette dimension, mais le corps malade fait violence à celui qui le regarde. On pourra peut-être revenir sur ce que ça peut d'ailleurs déchaîner comme type de violence en retour. Et puis, dans le cas de ce que dit Forrest, dans Tous les enfants sauf un, il y a effectivement un ostracisme très violent, qui est une espèce de réponse, là aussi, à l'obscénité de la mort. Hein. Et Forrest part de la référence à Bataille, dans l'érotisme, qui dit que ce qu'on ne veut pas voir dans le corps malade, c'est à travers lui la réalité de notre mort à venir. Et c'est pour ça, d'une certaine manière, qu'on va mettre à l'écart les malades, comme si on essayait, dit Forrest, de se protéger les vivants d'une contamination symbolique. Donc le malade va être repoussé, peut-être à la fois pour ce qu'il présente effectivement de choquant, de repoussant, mais aussi pour ce qu'il symbolise malgré lui.
Donc il y a d'un côté l'exposition, de l'autre l'ostracisme, mais dans les deux cas, il y a cette idée de la pudeur en fait qui ne fait plus barrière. Parce qu'on est obligé en fait soit de cacher, soit carrément d'exposer en disant on va réifier l'être humain. Donc on n'est plus du tout dans, on va le regarder comme une chose, donc on n'est plus du tout dans cette pudeur-là. Finalement, qu'est-ce que la pudeur dès qu'elle n'existe plus ? À quoi faisait-elle barrière ? Et qu'est-ce qu'elle ne cache plus dès lors qu'il y a la maladie qui apparaît et qui l'abat ?
C'est une question passionnante, difficile. Lévinas dit quelque part que, même nue, la femme est encore vêtue de sa pudeur. Ça veut dire que le corps humain, même nu, dans la vie quotidienne, hein, est toujours revêtu d'une, ce que j'appellerais un voile de fin silence, une ombre qu'on essaie de mettre en incurvant un peu les épaules ou en serrant un peu les cuisses pour ne pas être réduit au statut d'objet. Mais la médecine occidentale moderne, dont il faut célébrer tous les succès, hein, est une médecine qui attente à la pudeur en ceci qu'elle est fondée sur l'examen objectivant d'un corps qui n'est plus le Leib, c'est-à-dire le corps investi par l'âme, comme disaient les Allemands, mais un Körper, un simple objet qui prend de la place dans l'étendue. Et le cas d'Elephant Man est évidemment vertigineux. Vous savez, Lévinas disait encore, lorsque je vois un visage, je ne vois pas un objet, je vois un regard qui me regarde. Et ce regard m'oblige à détourner les yeux, parce que si je regarde longtemps votre visage comme je regarderais un objet, eh bien vous allez vous sentir dévisagé. Dévisagé, ça ne veut pas dire que vous allez partir avec un trou à la place de la tête, mais ça veut dire que le visage, non pas en tant qu'amas de chair et d'os, mais en tant qu'instance éthique, hein, comme disait Lévinas, eh bien, est nié par le regard objectivant. Et alors, il y a quand même un cas où on peut regarder le visage ou l'œil de quelqu'un sans blesser sa pudeur, c'est peut-être même une obligation, c'est quand on est amoureux. Beaucoup d'histoires d'amour commencent par un regard qui dure un peu trop longtemps. Et puis il y a aussi quand on est ophtalmologiste, où là il faut quand même regarder l'œil d'autrui comme un objet. Alors le cas des ophtalmologistes amoureux dépasse le champ de ma compétence. Peut-être que Claire a quelque chose à dire à ce sujet. Mais au sujet d'Elephant Man, mais justement, Lévinas disait que le visage d'autrui, que je ne peux pas regarder comme un objet, porte le commandement biblique « tu ne tueras point ». Or, ce visage d'Elephant Man me rappelle, l'histoire est terrible, vous savez, le visage de Chantal Sébire, cette femme dont le visage était déformé par la maladie,
par une tumeur
terrible. Mmh. Et alors, ce visage ressemblait au visage de la Gorgone. Vous vous souvenez de ce que Jean-Pierre Vernant dit du visage de la Gorgone? C'est-à-dire qu'elle a un visage où se mêlent l'humain, le végétal, le minéral. Et ce visage est le visage qu'on ne peut regarder sans avoir envie de le tuer. Le visage, normalement, nous dit « ne me tue pas, ne m'objective pas, ne me tue pas ». Mais il est certains visages, comme celui d'Elephant Man, qui sont parfois exhibés et qu'on a presque envie de tuer. C'est ça qui est terrifiant. Et alors, ce qu'il faut dire, c'est que la médecine occidentale ne peut pas soigner sans objectiver, mais d'autres médecines essaient de soigner sans objectiver. Et je dirais que, si vous voulez, nous construisons notre vie d'homme sur la distinction entre le cacher, le montrer, le privé et le public, l'intériorité et l'extériorité, le soustrait, l'extrait, l'invisible et le visible. Et chacun, avant qu'il n'aille à l'hôpital, a une certaine souveraineté sur le tracé de cette frontière. Il y a des choses que je veux bien montrer, des choses que je veux cacher, des choses qui doivent être intimes, des choses extimes, etc. Mais bien souvent, être l'objet d'un examen médical dans le cadre de l'hôpital contemporain, c'est tout d'un coup perdre la souveraineté, perdre la maîtrise de ce tracé qui sépare le montrer et le cacher, l'extime et l'intime. Et c'est toujours quelque chose comme une épreuve, en effet, que d'être objectivé par la médecine contemporaine.
La puissance de la pudeur, c'est d'un côté de faire barrière, et dans le cas de la maladie, il semble qu'elle perde cette puissance-là. Est-ce qu'on peut dire, à l'inverse, qu'il y a des vertus de l'impudeur, c'est-à-dire des vertus de l'impudeur de la maladie, ou cette expérience de la maladie qui renverse toutes les catégories, qui dévoile notre intimité, fait advenir notre identité, nous oblige finalement à repenser ce qu'on voulait cacher, à ce que l'on croyait cacher, en fait, qui n'était peut-être rien, c'est-à-dire peut-être une identité qui était beaucoup plus friable qu'on le pensait. Finalement, est-ce que c'est pas l'expérience aussi ontologique d'une réélaboration de notre identité, Claire Marin ?
Oui, on peut voir les choses de cette manière. C'est une vision assez positive, du coup, de l'expérience de la maladie. Je ne sais pas si on peut le généraliser à tous ceux qui la font, mais il y a sans doute quelque chose de ce type. De toute manière, la maladie, je crois, est reconfiguration de l'existence du sujet, qu'elle soit positive ou négative, puisque il me semble quand même qu'il faut envisager les deux voies. Et il y a peut-être des pudeurs antérieures qui apparaissent comme des pudeurs illégitimes. Je pense que ça modifie au moins momentanément le rapport au corps, le rapport au corps désirant, qu'il faut se réapproprier une fois que le corps a été objectivé par la médecine. Il faut recréer une familiarité pour deux raisons, parce que la maladie a rendu ce corps étranger. Et puis parce que la médecine en a fait aussi une chose. Donc il faut se créer une nouvelle forme de pudeur dans la réappropriation de ce corps. Et je suis toujours assez frappée de voir comment certains textes sur la maladie parle de cette espèce de rebond vital qui apparaît au moment de la guérison, une espèce d'urgence à vivre intensément, et je dirais presque à tester son corps dans le désir et dans la sexualité. C'est quelque chose qu'on trouve par exemple dans un texte de l'écrivain Patrick Autréau, qui raconte bien son retour à la vie. Il parle de seconde naissance à plusieurs reprises, hein, alors qu'il y a aussi une naissance spirituelle, mais qui passe par une épreuve du corps.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Claire Marin pour dire que c'est ambivalent, que parfois l'épreuve de la maladie est l'occasion souveraine, enfin, d'une révélation de sa vérité nue que l'on cachait avant que d'être malade. Mais dans bien des cas, il me semble que c'est pas vraiment le cas, vous savez. Alors, je comprends, il est vrai que, là encore, mon cher Lévinas dit quelque part, l'approche de la mort nous dégrime. L'approche de la mort sonne le glas de la maîtrise, de la virilité, de la souveraineté du sujet. Elle nous ramène à une étrange passivité, à une étrange féminité même, dit-il. Elle nous ramène à la secousse enfantine du sanglot, car l'approche de la mort nous dégrime. C'est un texte magnifique, mais on peut considérer ça comme une chance, mais aussi comme une catastrophe. Il est vrai que dans la vie quotidienne, nous vivons grimés. La société est un espace dans lequel la vie est plutôt jouée que véritablement vécue. Nous passons notre temps à jouer, et je dirais que chacun d'entre nous joue plus de rôle en une journée que le comédien le plus engagé en une année. Nicolas Grimaldi dit ça très bien dans un texte, hein, parce que nous ne sommes pas le même dans notre club de gym et à l'hôpital et dans le salon de notre grand-mère. Bon, et notre voix change selon notre interlocuteur. Tout vêtement est un déguisement. Bon, un grand philosophe auquel je veux rendre hommage, Michel Galabru, disait récemment que les êtres humains jouent toujours et pas seulement sur scène. Et il disait que les seuls moments où les êtres humains arrêtent de jouer, c'est quand ils dorment. Bon, moi j'ai envie de dire que souvent la douleur nous empêche de jouer. Moi, je dirais, la douleur, c'est l'inoubliabilité du corps. C'est-à-dire, je ne peux plus oublier le corps. Si j'ai très mal à la gorge, si j'ai un prurite, si j'ai une démangeaison, si j'ai une douleur exquise, je ne peux pas oublier mon corps. Et la douleur, c'est aussi le fait de ne plus pouvoir jouer. Hein? Alors, en effet, on peut dire qu'elle a cette vertu sanctifiante, à savoir qu'on est dégrimé, démasqué. Mais le visage que l'on montre quand on souffre, à mon avis, il est très dangereux de dire que c'est le vrai visage de l'homme. D'abord, il n'y a pas un vrai visage de l'homme. Nous sommes des kaléidoscopes, nous avons une infinité de visages. Et la douleur et l'épreuve de la maladie révèlent un visage que je cachais jusqu'à maintenant. Je ne dirais pas que c'est le vrai visage. Sinon, en effet, on va revenir à l'idée que la douleur est rédemptrice, sanctifiante, et que c'est une bonne chose que d'être malade. Je crois que, de temps en temps, oui, ça révèle quelque chose de vrai, mais pas toujours. Être mise à nu, c'est pas toujours une bonne chose. Je pense que vous en serez d'accord.
Oui, je suis d'accord. Je crois pas que le visage de souffrance d'un individu soit sa vérité.
Bien sûr.
Je crois que
c'est plutôt notre visage
cas,
joyeux qu'est notre vrai visage.
J'espère. Oui. Dans certains cas, ce visage de souffrance, c'est celui de la monstruosité. Je voudrais juste revenir sur cette idée, parce qu'avec Elephant Man, on a effectivement l'absolu de la monstruosité, mais cette monstruosité, elle se trouve dans les expériences de la fin de vie, dans le fait d'être dépossédé de ses mouvements, des aspects les plus intimes de sa vie organique et triviale. Donc on a vite fait de se sentir monstrueux dans la maladie. La frontière qui nous paraissait énorme entre l'animal et nous, entre le nourrisson et nous, etc., tout d'un coup, elle devient très poreuse. Et je crois que c'est ça qui est particulièrement la source d'une grande honte et le sentiment d'être particulièrement impudique. C'est dans cette situation triviale où le sujet, tout simplement, ne se maîtrise plus et est dépossédé de la maîtrise de son être.
Tiens bon la colonne vertébrale,
Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance, et c'est le troisième temps de notre semaine sur la pudeur, à l'occasion de la parution chez Plon et France Culture des entretiens d'Adèle Van Rett avec Éric Fiat. Éric Fiat, professeur de philosophie morale et d'éthique médicale à l'Université Paris-Est, Marne-la-Vallée, que nous recevons aujourd'hui pour évoquer la pudeur éthique quand la maladie nous met à nu, avec Claire Marin, philosophe et écrivain, professeur de philosophie en classe préparatoire, auteur de La maladie catastrophe intime, c'est chez PUF, et Dehors de moi, un récit disponible chez Alia.
Il fallait déshabiller Pauline. Il fallait aussi allumer du feu, faire chauffer de grosses pierres. Il n'osait pas s'arrêter de frictionner les pieds qui restaient de marbre. Enfin, il se dit, si je pense à tout ça, je suis foutu. Faisons les choses comme il faut. Il venait brusquement de perdre espoir. Il se dressa et prit dans le bas tous les vêtements lourds susceptibles de donner un peu de chaleur. Il trouva assez de petits bois et même une grosse souche de pain. Il alluma du feu, fit chauffer des pierres, installa une sorte de coussin sous cette tête dont il ne connaissait plus le visage et dont le poids l'étonna. Les cheveux qui coulèrent sur ses mains étaient rêches et comme travaillés par une chaleur de désert. Angelo avait placé de gros galets dans le feu. Quand ils furent très chauds, il les enveloppa dans du linge et il les plaça près du ventre de la jeune femme. Mais les pieds étaient devenus violets. Il recommença à frictionner. Il sentait le froid fuir de ses doigts et monter dans la jambe. Il souleva les jupes. Une main de glace saisit sa main. « J'aime mieux mourir, » dit Pauline. Angelo répondit, il ne savait quoi. Cette voix, bien qu'étrangère, le mit dans une sorte de fureur tendre. Il se débarrassa de la main avec brutalité et arracha les lacets qui nouaient la jupe à la taille. Il déshabilla la jeune femme comme on écorche un lapin, tirant les jupons et un petit pantalon de dentelle. Il frictionna tout de suite les cuisses, mais les sentant chaudes et douces, il retira ses mains comme d'une braise et revint aux jambes, aux genoux, qui déjà étaient pris par la glace et bluissaient. Les pieds étaient blancs comme de la neige. Il découvrit le ventre et le regarda avec attention. Il le toucha des deux mains, partout. Il était souple et chaud, mais parcouru de tressaillements et de crampes. Il le voyait habité de formes bleuâtres qui nageaient et venaient frapper la surface de la peau.
On vient d'entendre un extrait du Hussard sur le toit, le roman de Jean Giono qui date de 1951, texte interprété par Marianne Bassler. On a évoqué tout à l'heure le regard, peut-être qu'on peut maintenant évoquer le toucher, et peut-être à cette occasion-là, évoquer aussi le soin, c'est-à-dire le soin qui est à la fois une forme de pansement, mais aussi une forme d'intrusion. C'est toute l'ambivalence du soin et du toucher, Éric Fiat.
Oui. Alors ce texte est admirable, enfin, le Hussard sur le toit, ça raconte essentiellement la rencontre entre le bel Angelo Pardi, qui arrive d'Italie, et qui va tomber amoureux de cette Pauline très noble, Pauline de Théus. Et alors le choléra se répand dans toute la Provence, et à un certain moment, alors qu'il est en train de parler à Pauline, il se vouvoie, il se désire mais ne se le dit jamais, car ce sont des êtres si pudiques, et voilà que Pauline à un certain moment le regarde, elle a l'œil qui flanche, elle se met à vomir et elle est atteinte du choléra. Alors il a appris, je ne sais pas si Giono n'invente pas, il aimait beaucoup inventer, il a appris, Angelo, que si on frotte en effet les jambes du colérique avec de l'alcool, on peut le sauver. Et toute la nuit, il va en effet frotter les jambes de Pauline. Alors il la voit nue, alors il y a ce fameux mot, « arrêtez, j'aime mieux mourir », mais heureusement il passe outre et donc il va la sauver. Le lendemain matin, quelle scène sublime lorsque les deux héros, qui sont profondément amoureux l'un de l'autre, mais jamais le se diront, se réveillent, car Pauline se met à tutoyer Angelo. Angelo, rougissant au souvenir d'avoir vu Pauline nue, et même de l'avoir lavée après qu'elle s'était souillée, maintient le vouvoiement. Et puis voilà, ils repartent, mais alors, ils vont se séparer, mais surtout, je voudrais lire un tout petit texte qui me paraît très important pour notre sujet. C'est qu'en fait, cette scène du Hussard sur le toit, trouve un écho dans un autre roman de Giono qui s'appelle « Mort d'un personnage ». C'est un admirable petit livre où Giono nous raconte la fin de la vie de cette Pauline de Théus, qui a laissé Angelo partir. Elle est devenue très vieille, elle a vécu très loin d'Angelo, elle est aveugle et la voilà dépendante, totalement dépendante comme on dit de nos jours. Pourtant, elle garde le souvenir de cet Angelo qui ne sut saisir sa main. Et alors cette scène, c'est aussi une scène de soins, plus précisément une scène de toilette, celle où le petit-fils de Pauline doit laver sa grand-mère. Et c'est une scène où l'on retrouve le fameux « Laissez-moi, j'aime mieux mourir ». Or, il se trouve que le petit-fils de Pauline, qui est le narrateur de mort d'un personnage, se nomme aussi Angelo. Et cela est absolument extraordinaire. Alors, je vous lis, si vous le voulez bien, ces tout petits extraits de mort d'un personnage. Pourquoi est-ce que c'est le petit-fils qui doit laver sa grand-mère ? Bah, tout commence par un dialogue entre la bonne de la vieille Pauline de Théus et son petit-fils. La bonne, la pauvre madame, on a beau lui recommander de faire attention, c'est comme si on lui chantait la messe. Elle ne sent plus passer ni le petit, ni le gros. Le petit-fils, bah alors ne lui dites rien, la bonne. On voit bien que ce n'est pas vous qui l'appropriez. Bref, qui la rendez propre. Alors ce fut moi, dit le petit-fils, et donc c'est lui. Et alors voilà ce qu'il écrit, hein, devoir laver sa grand-mère, c'est quelque chose quand même. Au début, ça lui est très difficile. Au début, je regardais à peine ses cuisses réduites à l'os. Je regardais plutôt ses jambes et surveillais l'enflure de ses chevilles, la lourdeur de ses pieds d'éléphant et leurs doigts où poussaient très rapidement des ongles en corne très durs, couleur d'ambre. Mais il ne suffisait pas de laver ses pieds gonflés et pierreux. Les fonctions étaient plus hauts. Il fallait absolument avoir le courage de regarder les endroits où la chimie humaine continuait de fonctionner. Il m'était extrêmement pénible d'essayer d'aimer sans mensonge. Je ne voulais pas qu'il soit question de pitié, je voulais continuer de l'aimer. Naturellement, je dus me forcer. Ce qui m'aida, ce fut ce squelette sous parchemin, ces cavités pelviennes dans lesquelles la peau s'enfonçait et dont il fallait que je nettoie le fond avec des petites houppes de coton. Ce pubis rocheux, ce sexe ruiné sous des herbes blanches. Même quand mon nouvel amour fut devenu radieux, glacial et plus étincelant que le givre, je me disais que je n'aurais pu la laver si elle avait été grasse et ronde. Et alors un peu plus loin, une fois que je la lavais, elle parla avec une étrange voix, presque jeune. « Laissez-moi, dit-elle, j'aime mieux mourir. » Vous voyez, la même formule que quand Pauline était jeune. Quoique le tour fût insolite, car d'ordinaire elle me tutoyait, je crus que cette fois elle trouvait mes soins impudiques et insupportables. « Cela n'a pas d'importance, dit le petit-fils, il faut que tu sois propre. » Mais je compris que cette phrase venait de très loin, et même qu'elle ne s'adressait vraisemblablement pas plus à moi que le prénom, le mien pourtant, qu'elle avait chuchoté au seuil de ma chambre le soir où la bonne m'avait soufflé à l'oreille. « Angelo, Angelo. » « Ne répondez pas, petit garçon, cela ne vous concerne pas. » C'est extraordinaire que la vieille dame incontinente, dépendante, eh bien, au moment où elle est lavée par son petit-fils, se souvienne du geste à la fois de soin et érotique de l'autre Angelo. Je voulais lire ce texte, je ne sais pas comment vous y réagissez.
Ça pose plusieurs questions. D'abord, effectivement, ce qui peut être problématique dans le soin. Je me souviens d'avoir écrit un passage où je disais que le corps du patient a été asexué, qu'on niait tout ce qu'il pouvait y avoir de désirable en lui par la manière dont on le regardait, et d'avoir entendu des médecins me répondre « mais c'est une lutte de regarder comme ça le corps ». C'est-à-dire qu'il y a aussi parfois une pudeur imposée, une pudeur presque déontologique, qui fait que le soignant s'efforce de ne plus voir le corps que comme un corps à soigner et pas un corps désirable. Et puis, il y a cette question effectivement du corps qui a été tellement transformé par la maladie sur la fin de la vie, par exemple, dans lequel on ne reconnaît plus l'être aimé. Comment continuer à aimer celui qu'on ne peut pas reconnaître parce qu'il a tellement changé? Et parfois, c'est peut-être moins la transformation corporelle que la transformation psychique. Je pense au texte que le philosophe Michel Malherbe a écrit à propos de la maladie d'Alzheimer de sa femme. Et dans le titre, on a vraiment cette idée, Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance. Et il dit, est-ce que je la reconnais dans son inhumaine condition ? Et c'est bien ça la question qui se pose quand on soigne au quotidien un proche qui ne nous reconnaît plus et qu'on ne reconnaît plus. Comment trouver encore la force d'aider l'autre à être encore lui-même, au moins pour nous, puisque nous-mêmes, nous en avons besoin.
Ce texte où notre collègue philosophe évoque la maladie d'Alzheimer de son épouse est un texte assez bouleversant, extrêmement violent. Et j'avoue, pour ma part, être extrêmement choqué par les pages où Il dit « Quand je vais la voir, je ne la vois plus elle, je vois Alzheimer ». Il me semble que là, il y a... Alors bien sûr, cette maladie est déshumanisante, elle est violente, voilà ce qu'on a envie de dire. Mais, il me semble que dire que quand on voit un visage, le visage de quelqu'un qui atteint cette maladie, eh bien, c'est Alzheimer, c'est quand même nier le fait que même si les fonctions supérieures de l'esprit sont ravagées par cette maladie, eh bien, être aristotélicien, c'est penser qu'il ne faut pas réduire l'âme à l'esprit, vous savez. Et donc, que même si l'âme rationnelle, tout en haut de laquelle se trouve l'esprit, est fort abîmée par cette maladie, il demeure l'âme sensitive. Et il me semble que les émotions, les sensations de ce malade-ci ne sont pas celles de ce malade-là. Et donc, vous voyez cette dame qui n'a rien dit depuis des jours, qui ne reconnaît plus personne, et qui, à un certain moment, proustiennement, eh bien, mangeant avec les mains de la confiture de cassis, se souvient, vaguement, sans avoir les mots pour le dire, du fait que, bah oui, dans son enfance, ah oui, elle mangeait des cassis dans le jardin de cette tante. Et là, tout d'un coup, elle qui n'a dit aucun mot depuis des jours, va dire le nom de sa tante, oh, Alphonsine. Bon, et l'autre ne fera pas la même chose. Il y a aussi, je vois ça avec les soignants qui s'occupent d'éthique avec moi, si vous voulez, soigner un corps... C'est toujours rendre hommage à une singularité. Certes, on peut mécaniser la toilette. C'est parfois presque inévitable quand on n'est pas assez d'aide-soignant pour la faire. Hein, il arrive parfois, oui, que on mécanise, qu'on protocolise, qu'on procédurise le soin. Jean Cocteau a écrit un très beau texte là-dessus, hein, quand il était malade. Les bonnes sœurs ne soignent pas le malade. Elles soignent la chambre du malade, dont le malade n'est qu'un élément parmi d'autres. J'appelle, c'est un automate vêtu de blanc qui entre dans la chambre, la range et en sort. Toute attention à la singularité du cas du malade déréglerait le mécanisme et leur semblerait un crime de lèse-majesté par rapport au médecin-chef ou à la mère supérieure. Donc oui, dans le soin, dans la toilette, il y a un élément protocolisé, procédurisé, mécanisé. Mais en même temps, aucun corps ne ressemble à un autre. Et par exemple, cette aide-soignante ne comprend pas pourquoi, quand elle approche son gant pour laver cette dame se met à hurler alors qu'elle ne l'a pas touchée. Bien pourquoi ? Et bien parce que malgré que l'esprit et l'âme rationnelle soient fort abîmés par la maladie, elle a le vague souvenir des mains baladeuses d'un tonton qui la touchait, qui la tripotait quand elle était enfant. Et donc ce texte de notre collègue Malherbe est un texte très émouvant, très fort. Et moi qui ai eu la chance de ne pas avoir accompagné un proche qui ait cette maladie, je n'ai pas de leçon à donner à un collègue. Mais je trouve extrêmement violent, éthiquement, le fait de dire « quand je vais la voir, je ne vois pas mon épouse, je vois Alzheimer ». C'est pas vrai. Jusqu'au bout, quelque chose de la singularité sensible de l'être humain peut demeurer. Philippe Solers disait quand la rencontre d'un nouveau corps était toujours pour moi l'apprentissage d'une langue étrangère. Alors c'est le corps érotique, le corps à caresser et non pas le corps à laver. Mais j'aimerais au fond que ceux qui doivent laver aussi se disent que la rencontre d'un nouveau corps, c'est à chaque fois la rencontre d'une singularité irréductible.
Mais Eric Fiat, ce que vous pointez ici, c'est véritablement l'impudeur d'une certaine manière de, là aussi, en fait, de ramener, d'identifier la singularité d'une personne à sa maladie. Je voulais citer un texte d'Annie Ernaux dans lequel elle parle de sa mère, qui, donc un texte extrait de Je ne suis pas sortie de ma nuit. Et donc elle dit ceci, elle cache ses culottes souillées sous son oreiller. Cette nuit, j'ai pensé à ses culottes pleines de sang qu'elle enfouissait sous la pile de linge sale dans le grenier jusqu'au jour de la lessive. J'avais 7 ans environ, je les regardais fascinées et maintenant elles sont pleines de merde. Alors on peut continuer comme ça tout le récit. Il est vraiment bouleversant, voire assez choquant. Il y a une forme d'impudeur à parler de la maladie en termes. Et en même temps, est-ce que l'impudeur à ce moment-là n'est pas le seul recours pour endurer finalement la difficulté ou la douleur de la maladie ? C'est-à-dire à aller encore plus loin que ce que la maladie impose en la rendant encore plus difficile avec les mots, Claire Marin.
Je crois qu'ici, il y a une réaction à l'outrage que nous fait le corps malade, le corps vieillissant, le corps dépossédé de la maîtrise. Et on sent bien que face à ce qu'elle décrit en termes très forts, elle dit c'est une horreur de voir sa mère nue. Hein. Elle emploie à chaque fois des termes assez violents. Et à un moment, je crois qu'elle dit assez clairement les choses. Elle dit... elle arrive à la maison de retraite, le garde lui dit que sa mère s'est fait pipi dessus, qu'elle en a mis partout. Et là, Annie Ernaux note qu'elle a une réaction sadique. Elle montre bien que ce sadisme est l'espèce de réaction inévitable face à la honte qu'elle partage en fait avec sa mère. Il y a une espèce de compassion dans la honte, enfin d'un vécu commun. C'est vraiment autant elle qui est mise à nu que sa mère. Et le sadisme apparaît comme une forme de réaction presque spontanée à ce sentiment-là d'être exhibée dans sa déchéance physique.
À un autre moment du texte, elle dit justement qu'elle est allée à l'hôpital avec sa mère, que l'interne a relevé la chemise de sa mère donc jusqu'à son ventre, ses cuisses, son sexe blanc, quelques vergetures. D'un seul coup, ce fut comme si c'était moi exhibée ainsi. Il y a une identification où en fait on se met à la place du malade, du patient, on s'identifie et on se voit nous-mêmes nus. Mais quel est le pouvoir de la maladie de faire s'effondrer comme ça une forme de pudeur ou alors de l'exacerber? C'est peut-être la forme la plus forte de la pudeur. Éric Fiat.
Je comprends que à la violence de la maladie répond de la violence des mots qui la décrivent. Cette réaction est compréhensible et elle est le ressort romanesque de bien des romans, de bien des textes que nous lisons aujourd'hui, que nous entendons aujourd'hui. Mais comprendre, ça n'est pas légitimer. Et il me semble que d'autres stratégies sont possibles pour parler de ce qu'il y a de terrible dans l'incontinence, dans la perte de soi, dans la perte de maîtrise, comme vous dites, que la stratégie qui consiste à les exhiber de manière en effet impudique. Dans le livre que nous avons fait avec Adèle Vendrette, nous avons consacré un chapitre à l'hôpital, lieu où l'on attend à la pudeur. Et on a donné à ce chapitre un sous-titre qui est « Éloge de l'halogène ». Il y a des belles allitérations en plus. « Éloge de l'halogène ». Et alors en effet, je pense que j'ai une grande admiration pour les lampes halogènes, c'est-à-dire pour les variateurs de lumière, si vous voulez, qui permettent au fond de temps en temps, oui, mettre lumière crue quand il le faut, mais de temps en temps mettre un petit peu plus d'ombre. Et bien moi, j'admire beaucoup tous ces médecins, tous ces soignants qui ont affaire à un corps en effet démasqué, dévoilé et potentiellement choquant et impudique, qui... de temps en temps, mettre un petit peu d'ombre pour moins gêner la personne. Lorsqu'on doit subir un examen chez le gastro-entérologue, que dis-je, chez le proctologue, sa propre pudeur est mise évidemment en péril. Mais il est certains médecins qui, de temps en temps, mettent un petit peu plus d'ombre pour que celui qui doit se dévoiler ait un peu moins peur. Et puis alors, progressivement, on met un petit peu plus de lumière pour examiner. Alors parfois, avec certains malades, on peut tout de suite mettre beaucoup de lumière parce que ça ne pose pas trop de problèmes. Parfois, avec d'autres, il y faut beaucoup plus de temps. Respecter la singularité du cas du malade, à mon avis, ça peut se faire non pas en répondant à la crudité de la maladie par la crudité du regard ou des mots. Ça peut se faire en utilisant ce variateur des lumières. Alors, ceci, je comprends bien, en effet, que de temps en temps, on ait besoin de parler violemment de cette violence que constitue la dégradation. Baudelaire l'a dit, ange plein de beauté, connaissez-vous les rides et la peur de vieillir? Et ce hideux tourment de lire la secrète horreur du dévouement dans les yeux où longtemps burent nos yeux avides. Ange plein de beauté, connaissez-vous les rides? Dans le texte de Giono, on voit que Giono a peur en effet d'avoir pitié, qu'être objet de pitié quand on a envie d'être objet d'amour, c'est terrifiant. Mais j'avoue que toute cette littérature qui répond à la violence de la maladie par la violence des mots, me semble, je la comprends. Il me semble qu'elle ne doit pas occuper toute la place et que au quotidien, les soignants qui accompagnent des gens malades, dégradés comme ça, savent dire les choses avec beaucoup plus de tact, beaucoup plus de pudeur.
En fait, c'est comme si la violence des mots aussi faisait masque et n'était pas pudeur, n'était pas voile comme la lumière que l'on temporise plus ou moins en fonction de la manière dont le patient a envie de se montrer ou peut-être d'être vu. Claire Marin, vous voulez réagir?
Oui, alors deux choses. En vous écoutant, je pense à un autre texte sur la maladie d'Alzheimer qui est d'Olivia Rosenthal, qui s'intitule « On n'est pas là pour disparaître » et qui est intéressant parce qu'il me semble que d'un point de vue littéraire, elle fait exactement ce que vous décrivez. C'est-à-dire qu'il dans ce texte, il y a de nombreuses répétitions de la même phrase qui va avoir progressivement des petites variations, comme si progressivement on permettait au lecteur d'aller jusqu'à effectivement la situation dans ce qu'elle a peut-être pour le lecteur de choquant, mais qu'Olivia Rosenthal réussit à tourner d'une manière assez poétique et assez émouvante. Donc peut-être on pourrait mettre en regard ces types d'écriture. Et puis, Autre chose quand même que je voulais dire sur pudeur et soins, ce qui est intéressant, c'est de voir quels sont les soignants qui s'intéressent à cette question de la pudeur, qui réfléchissent dessus, qui font des mémoires dessus. Ce sont des infirmiers, ce sont des soignants qui vont travailler en gynécologie ou dans les soins palliatifs ou dans les cancers du sein, par exemple, ou de l'utérus. Donc, ça montre bien ici qu'il y a peut-être des professions médicales dans lesquelles on estime qu'il n'y a pas d'intrusion ou de violation de la pudeur. Or, je crois que ce qui est important, comme vous disiez, il y a une singularité du patient, et pour un patient, ce qui peut être très intrusif, c'est un dentiste. Par exemple, dans des cas de patientes atteintes d'anorexie, par exemple, les soins dentaires sont très très compliqués. Donc, il faut comprendre où la pudeur se loge pour que le soin ne soit pas conçu comme violent.
As my mother lay lying in the nursing home bed, I paid strict attention to the things she said. As my mother lay lying, I learned old dreams that bothered me since I was little. I looked at her and in a flash I saw the riddle. As my mother lay lying, I learned. As my mother lied dying, I learned some more.
Merci à vous deux, Claire Marin, merci. Alors je rappelle que l'on peut lire de vous « Violence de la maladie, violence de la vie », c'est reparu chez Armand Collin, « La maladie, catastrophe intime », c'est au PUF, « L'homme sans fièvre » aussi chez Armand Collin, et puis « Hors de moi », un récit disponible chez Alia. Et Eric Fiat, quant à nous, eh bien, on se retrouve demain pour la suite de cette semaine consacrée à la pudeur. Avant cela, je rappelle que l'on peut lire de vous, hormis vos entretiens avec Adèle Van Redt, disponible chez Plon et France Culture, « Corps et âme », disponible aux éditions Cécile Defaux, « Grandeur et misère des hommes », petit traité de dignité, c'est chez Larousse. Et puis vos entretiens aussi avec Pierre Magnard, La couleur du matin profond, disponible au Petit Platon.
My restless twisting mother sleeping there, as my mother lay lying, I learned. As my mother lie dying, I learned some more. Now comes the time for one final cry. Now comes the time to say goodbye. As my mother lay lying, I learned. As my mother lay dying, I learned some more.
Et oui, donc, chers auditeurs, comme je l'ai dit, on se retrouve bien demain pour la suite et la fin de cette semaine sur la pudeur. Et demain, c'est de pudeur dans l'espace public et dans ses rapports à la religion dont il sera question entre Delphine Horviller et Eric Fiat. Et quant à vous, pour réécouter cette émission, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Nouveaux Chemins. Vous pourrez non seulement l'écouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster et y trouver toutes les références bibliographiques et musicales du jour. Rendez-vous également sur les pages Facebook et Twitter des Nouveaux Chemins où toute l'équipe met en ligne l'émission du jour. Vous écoutez France Culture, il est 10h54, c'est-à-dire l'heure de retrouver Christophe Onodibio pour le temps des libraires, suivi à 11h de Culture Monde par Florian Delorme.